Chapitre 11. Simon découvrit que l'armée n'était que trop heureuse de se débarrasser de lui. Le sergent Sous-Crispin était populaire et on trouvait qu'il s'était conduit de façon indigne. Il avait fait plusieurs tentatives pour revoir Tony, mais elle disait toujours qu'elle avait trop à faire. Il avait même demandé à Agatha de le reprendre à l'agence, mais elle lui avait répondu sans ménagement qu'elle n'avait pas les moyens de payer un employé de plus. Il avait toujours eu de l'aversion pour les figures d'autorité, ce qui lui avait attiré pas mal d'ennuis pendant sa courte carrière militaire. À ses yeux, Agatha Raisin était la figure d'autorité par excellence. Il décida de postuler chez Mixden, l'agence de détective concurrente. Mr. Mixden posa les mêmes conditions qu'à Tony. Simon n'eut qu'une minute d'hésitation. « D'accord, » dit-il, « mais je compte sur un bonus si je dégote un truc vraiment intéressant. »
« Alors voyons de quoi vous êtes capable, » répondit Mr. Mixden. « Je vous prends un mois à l'essai. Rappelez-vous, personne ne nous paye pour élucider ces assassinats, mais je veux cette publicité. »
Simon jugea que la meilleure façon de découvrir ce qui se passait à l'agence d'Agatha serait de se rapprocher le plus possible de Tony en prétendant qu'il était toujours sans emploi. Au même instant, Agatha et Tony examinaient les photos que la jeune femme avait prises avec son petit appareil, ainsi que celles que leur avait fournies la police de Las Vegas. Elle les avait affichées sur l'écran de l'ordinateur de l'agence. Patrick et Phil scrutèrent les clichés par-dessus leurs épaules.
« Il est malin, » fit remarquer l'ancien policier. « Regardez comme il baisse la tête. Il sait précisément où se trouvent les caméras. »
« Je me demande, » dit lentement Agatha en se calant dans son fauteuil, « si ça ne peut pas être une sorte de coïncidence. Supposons que ce soit quelqu'un d'ici, accro au jeu d'argent. Il repère Tony, enfin c'est ce qu'il croit, et pense qu'on a découvert son petit vice. C'est vrai quoi, regardez Chelsea. Elle s'est vraiment donné un mal de chien pour vous ressembler, Tony. Imaginons que ce gars voit Tony entrer dans le casino, puis elle disparaît, et après, il croit l'avoir joué aux machines à sous. »
« Si c'est le cas, » poursuivit Patrick, « ce pourrait être quelqu'un qui aime l'argent comme Beach. Et s'il est dépendant au jeu de hasard, il se peut qu'il soit prêt à tout pour assouvir son vice. »
Le portable de Tony sonna. C'était Simon.
« On dirait que t'as eu plein d'aventures récemment, » dit-il. « Ça te dit qu'on se voit ce soir ?
Je n'ai pas trop le temps. »
« Écoute, Tony, j'apprécierais vraiment beaucoup. Tout le monde me traite comme un lépreux. »
« Juste un verre alors. 8 heures au Dragon. »
Sir Charles Fraisse était passé chez Agatha, pensant qu'elle se reposerait après son aventure américaine. Comme James Lacey avait repris la route, en lui laissant une copie des notes prises dans le registre de comptabilité de Beach, il décida d'aller au Red Lion boire un verre et de voir s'il y comprenait quelque chose. Après avoir commandé un demi, il s'assit à une table près de la fenêtre, puis il contempla les notes, mais elles ne lui évoquèrent rien.
« Des milliers de livres envolés. Je vais avoir des problèmes avec l'assurance !» fit une voix.
Charles se retourna. Il reconnut un agriculteur du nom d'Ettrick qui venait d'acquérir une exploitation en dehors de Carsley. L'homme à qui il s'adressait demanda
« Tu dis qu'on t'a fauché une moissonneuse-batteuse entière ?»«
Ouais, toute la foutue machine !»
se plaignit Ettrick.
« J'ai appelé l'assurance, mais elle tergiverse. Elle me dit que j'aurais pas dû laisser la machine dans les champs, avec tous les vols de matériel agricole qui se produisent en ce moment. »
Charles jeta un coup d'œil aux notes. « Est-ce que MB ne pouvait pas signifier moissonneuse-batteuse ? Est-ce que le rôle de Beach n'était pas d'informer un gang quelconque du matériel qu'il y avait à voler et de l'endroit où le trouver ?»«
Mais à quoi ça sert de voler une moissonneuse-batteuse ? » demanda le compagnon d'Ettrick.
« On raconte que les voleurs viennent la nuit, démontent l'engin, l'embarquent et qu'il finit quelque part en Europe de l'Est. Les carteurs à Broadway, ils se sont fait faucher la leur l'an passé. Beach, le flic qui a été assassiné, leur a dit que c'était de leur faute. Ils auraient dû la mettre à l'abri pour la nuit, selon lui. »
Charles vida son verre et sortit appeler Agatha.
« Un gang devait employer Beach comme espion !» supposa Agatha d'une voix aiguë, tout excitée après l'avoir écouté. Il devait leur dire quelles étaient les maisons faciles à cambrioler ou récupérer du matériel agricole de valeur. Ce qui signifie, conclut-elle lentement, qu'il y a peut-être un autre ripoux. L'homme qui a enlevé Chelsea lui a montré une carte de police. Il faut que je parle à Bill.
À la grande déception d'Agatha, Bill comme Wilkes jugèrent son hypothèse tirée par les cheveux, même si devant son insistance, ils promirent de l'examiner.
Après son départ, toutefois, Bill suggéra.
Ça ne peut pas faire de mal de voir s'il n'y a pas un de nos flics qui a l'air plus en fond que les autres en ce moment. Il y a énormément de matériel agricole qui a disparu, et des voitures haut de gamme aussi. Tous nos enquêteurs se sont occupés de ces assassinats. Peut-être qu'il est temps de ressortir les dossiers sur les vols et d'y jeter un nouveau coup d'œil.
La triste vérité, c'est qu'il existe un fossé entre la ville et la campagne. Même dans les villes comme Merchester, qui se trouvaient en pleine campagne, il était admis que les agriculteurs étaient tous riches, malgré les différents fléaux dont ils étaient victimes, de la vache folle à la tuberculose. Ce qui expliquait que la police de Merchester, parfois surmenée, ne consacrait pas assez d'énergie à résoudre des affaires comme la disparition de tracteurs et de moissonneuses-batteuses. Bill, quand il enrôla des collègues pour reprendre des enquêtes en attente, se vit souvent répondre d'un air maussade « Ils sont assurés, de toute façon », par ceux qui ne se rendaient pas compte que les primes d'assurance avaient tendance à être exorbitantes et que la lourde taxe sur les 4x4 récemment créée par le gouvernement était une charge de plus pour les agriculteurs. Wilkes obtint un mandat de perquisition pour Country Fashions, tandis que les douanes recevaient pour consigne de fouiller tous les camions de Stykoff passant la frontière dans un sens ou dans l'autre. L'inspecteur principal ordonna aussi qu'on épluche les listes de passagers de tous les avions à destination ou en provenance de Las Vegas. Lorsqu'elle le retrouva ce soir-là, Tony fut soulagé de voir Simon gai et gentil.
« T'as trouvé un boulot ?» demanda-t-elle.
« Je cherche. » répondit-il avec désinvolture.
« Alors, où en est l'enquête ?»«
Laquelle ?» demanda Tony, soupçonneuse.
« Tu sais, les assassinats et ta pote qui s'est fait kidnapper à Las Vegas. »
Une minute, Agatha nous expédie tous en vacances, de peur qu'il arrive malheur à l'un de nous. Celle d'après, on est de nouveau sur l'enquête.
« Ça se comprend. Tant que l'affaire ne sera pas résolue, vous ne vous sentirez jamais tranquille. Alors quoi de neuf ?»
Simon semblait si intéressé, si gentil que Tony se détendit. Il n'y avait pas de mal à lui parler. Elle se sentait souvent seule le soir ces temps-ci. Ses anciens camarades de classe lui étaient devenus étrangers. Elle avait quitté leur monde, un monde de discothèques et de cuites express où l'on rêvait de devenir célèbre sans avoir à apprendre à jouer la comédie, à chanter, à danser sans aucun talent de ce genre. Alors, Tony raconta tout à Simon. La dernière théorie selon laquelle l'incident de Las Vegas était peut-être une coïncidence. Le matériel agricole qui disparaissait. La conclusion à laquelle Agatha en était hâtivement venue qu'un autre ripoux avait peut-être pris la relève de Gary après son assassinat. Simon proposa à Tony de dîner avec lui. Mais elle fut tout à coup prise de remords. Elle n'aurait rien dû dire du tout. Elle lui fit donc jurer le secret, prétendit qu'elle avait un rendez-vous et s'en alla. Après quoi, Simon resta assis à se creuser les méninges. Un policier qui serait passé du côté obscur aurait pris garde à ne pas étaler son argent. Mais si ce ripoux, en admettant qu'il soit ripoux, avait de l'argent, il aurait certainement envie de s'offrir quelque chose de spécial, qu'il cacherait peut-être. La police allait écumer les casinos du pays, voir si elle trouvait un visage connu. Mais cela demanderait des semaines, voire des mois de visionnage de vidéos. Il commanda une autre boisson. Peut-être que la meilleure solution consisterait à observer les allées et venues des policiers du commissariat, histoire de voir si l'un d'eux éveillerait ses soupçons. Les policiers fréquentaient le Golden Eagle, un pub situé à deux pas du commissariat. Autant aller y faire un tour. Mais tout ce que cette soirée de travail lui rapporta, ce fut une gueule de bois le lendemain matin. Aucun flic, enquêteur ou pas, n'avait l'air plein aux as. Il prit deux Alka-Seltzer qu'il fit suivre par une tasse de café fort avant de s'asseoir à son ordinateur afin de taper son rapport pour Mr. Mixden. Bien sûr, en l'espionnant pour le compte d'un concurrent, il trahissait Agatha. Mais il se consolait en se disant qu'elle le méritait pour s'être mêlée de sa vie privée. Tout en tapant son rapport, il reprit le fil de ses pensées de la veille et se demanda ce que lui, par exemple, achèterait s'il avait beaucoup d'argent. Une voiture. Une Porsche, une Ferrari, un truc clinquant. Il la cacherait loin de Merchester, dans un garage fermé, et il la sortirait pour faire des virées pendant ses jours de congé. Il y avait un vendeur de voitures de luxe à Birmingham, Class Cars. Il envisagea de leur téléphoner, puis décida de se rendre sur place. Grâce à la générosité de son oncle et de sa tante, il avait une garde-robe de vêtements chics. Il enfila un costume sur mesure, acheté sur Savile Row, et une chemise en soie, agrémenta le tout d'une cravate en soie, demanda à son oncle s'il pouvait lui emprunter son Audi pour la journée, et se mit en route.
Arrivé chez Claskars, il déambula dans le hall d'exposition jusqu'à ce qu'un vendeur vienne lui demander s'il pouvait l'aider. Simon fit semblant de s'intéresser à une Alfa Romeo.
« J'envisage de m'acheter un petit bijou, » répondit-il.
« Dites donc, dans votre domaine, vous devez la sentir passer, la récession.
»« Je dois reconnaître que les gens conservent leur voiture le plus longtemps possible. Est-ce que vous aimeriez faire un tour d'essai avec l'Alfa ?»«
Écoutez, » commença Simon, la sincérité suintant par tous les pores de sa peau.
« Je vais vous avouer ce que je cherche vraiment, » poursuivit-il en sortant une carte de l'agence de détective Agatha Raisin sur laquelle était inscrit son nom.
« Je ne veux pas vous faire perdre votre temps. Vous avez lu ces horribles histoires de meurtre dans les Cotswolds ?»«
Oui, mais quel rapport avec nous ?»«
C'est peu probable, mais nous avons le sentiment que nous pourrions avoir affaire à un flic ripoux et qu'il pourrait avoir dépensé ses biens mal acquis en achetant une voiture tape à l'œil. »«
Ça vous évoque quelqu'un ?»
Le vendeur hésita, lança un regard à la ronde. Calme plat dans le hall d'exposition. Une secrétaire travaillait dans un coin, absorbée par sa tâche. Un autre vendeur fixait un écran d'ordinateur d'un air maussade. Simon sortit un rouleau de billets de 100 livres.
« Cachez ça !» dit le vendeur entre ses dents. « C'est presque l'heure de ma pause déjeuner. Allons au pub. »
Au pub, Simon apprit que le vendeur s'appelait Wilfred Butterfield. Il lui paya un verre, puis trouva une table dans un coin tranquille de l'établissement.
« Je veux l'argent maintenant !» annonça Wilfred.
Voyons d'abord si votre info est intéressante.
Eh bien, il y a eu un gars, oui. On a plaisanté entre nous après son départ en disant que c'était peut-être un poulet qui venait se renseigner sur la boîte. Il en avait l'air. Un regard dur, des chaussures noires luisantes, vous voyez le tableau. Il a fait un tour d'essai avec tout un tas de voitures et puis il a dit « Je reviendrai peut-être. » Toute une matinée de perdu.
Comment était-il ?
Costaud, accent écossais, cheveux blonds.
Personne d'autre ? Demanda Simon en faisant passer un billet au vendeur.
Personne de ce genre, non. Bien sûr, on a vendu des voitures, mais seulement à des gens de bonne réputation.
Si seulement je pouvais jeter un coup d'œil à vos registres des ventes.
Non, c'est hors de question, vous allez trop loin. Vous ne m'offrez pas à déjeuner ?
Non,
je vous ai donné assez pour que vous payiez vous-même votre repas.
Sur le chemin du retour à Mercer, Simon se souvint brusquement que plusieurs photos de groupe ornaient le hall d'accueil miteux du commissariat. Il s'y rendit directement et demanda à parler à Bill Wong. On l'informa que l'inspecteur était sorti.
Je vais peut-être attendre un peu, voir s'il ne revient pas, dit-il.
Il traîna à l'accueil, examinant les photos. Dans l'un des groupes, vers le centre, se trouvait un blond solidement charpenté, portant les insignes de brigadier.
Ça alors, s'exclama-t-il. Je le connais, ce type. Il s'appelle pas Henry James ?
Le préposé à l'accueil se pencha pour scruter la photo.
« Non, ça c'est le brigadier Billy Tullock. »« Bizarre, on dirait vraiment Henry James. Je ne vais pas attendre Bill, finalement. »
Simon passa le reste de la journée à attendre sur le parking devant le commissariat, de plus en plus affamé, mais déterminé à jeter un coup d'œil au brigadier Tullock. Il apparut enfin 9h du soir et s'en alla au guidon d'une puissante moto. Simon se lança à sa poursuite. Il crut plusieurs fois l'avoir perdu parce que le policier s'était engagé dans des ruelles sinueuses, mais finalement, il le vit se garer devant une fête foraine en périphérie de la ville. Tullock entra dans la fête et Simon lui emboîta le pas. Puis tout à coup, il perdit sa trace au milieu des manèges et des baraques. Il était planté là, indécis, quand il sentit quelque chose de dur s'enfoncer dans ses côtes et qu'il entendit une voix chuchoter avec un accent écossais.
« J'ai un pistolet. » Fais ce que je te dis et il ne t'arrivera rien. »
Tullock poussa Simon vers une attraction appelée la maison hantée. « Rentre là-dedans, » fit-il entre ses dents. « Achète des places. » Simon obtempéra.
« Aidez-moi !»
articula-t-il silencieusement pour attirer l'attention de l'homme qui collectait l'argent. L'homme éclata de rire, pensant que Simon plaisantait. La voiture avança avec une secousse dans l'obscurité. À la moitié du parcours, un faux squelette assis sur un fauteuil surgit devant eux. Tullock planta un couteau dans le flanc de Simon. La voiture s'arrêta quelques instants. Il n'y avait personne dans les voitures suivantes. Alors, le policier arracha le squelette à son fauteuil, hissa Simon sur la fine rampe utilisée par les techniciens, le poussa dans le fauteuil, puis marcha le long de la rampe jusqu'à une déchirure dans la toile qui couvrait l'attraction. Il sortit et se mélangea à la foule.
Patsy Broadband et son petit copain Terry Kelly grimpèrent en gloussant dans une voiture de la maison hantée.
« J'ai l'impression qu'on est seul, » fit remarquer Patsy.
« Tant mieux qu'on s'amuse un peu, » répondit Terry.
« Dis donc, t'en as de bonnes, hein ? Bats les pattes !»
Au milieu du parcours, Terry se plaignit.
« Je suis jamais allé dans un endroit qui fout moins la trouille, rien que des hurlements et des bouts de plastique peinturlurés. »
La voiture s'arrêta avec une secousse. Le fauteuil, où était affalé Simon, bascula vers l'avant et son corps atterrit sur le jeune couple. Patsy se mit à hurler à plein poumon.
« Ah, relève-le de là !»«
Non, vaut mieux le sortir d'ici, il s'est évanoui ou un truc du genre !»
Avec une embardée, la voiture ressortit dans la lumière crue de la fête foraine.
Eh, qu'est-ce qui se passe, là ?
Demanda l'employé du manège.
Il nous est tombé dessus !
Expliqua Terry.
C'est pas vrai ! Il est en train de foutre du sang partout sur ma robe neuve !
Brailla Patsy. Puis, elle eut une violente crise de nerfs. On appela une ambulance, on appela la police, et Simon fut transporté d'urgence à l'hôpital, entre la vie et la mort.